Bonjour à tous, merci d'être présents, merci à tous les membres de l'association de m'avoir permis d'être ici et de vous parler, dans la foulée de mes collègues, des visions et des prophéties d'Hildegard de Bingen. Donc là nous rejoignons le monde occidental et la tradition chrétienne. Donc tout d'abord, il faut que je vous parle un petit peu de la vie et de l'œuvre d'Hildegard. Il faut comprendre qui elle est, avant de vous parler de son expérience et de ses visions. Donc Hildegard de Bingen est une sainte, c'est la quatrième docteur de l'Église depuis 2012. Elle était dans l'ordre des bénédictins et son expérience fait d'elle une visionnaire et une prophétesse. Donc elle est née près d'Alvey en Est-Rhénane, l'actuelle Allemagne, en 1098. Donc on dit dans la géographie que ses premières visions commencent à l'âge de 3 ans, donc elle est très précoce. Voilà. On dit aussi qu'elle était tout à fait effrayée par ses premières visions qui lui tombaient dessus, littéralement, et que pendant très longtemps, elle va les garder pour elle, pensant qu'elle ne doit pas les révéler parce qu'elle constate bien qu'autour d'elle, personne ne parle de telles expériences. Donc elle va les garder longtemps pour elle. À 8 ans, elle entre au monastère de Saint-Désibaude et devient oblate sous la tutelle de l'abbesse qui se prénomme Jutta de Sponheim. Elle prononce ses vœux entre 14 et 17 ans et elle devient l'abbesse de son couvent à l'âge de 38 ans. 5 ans plus tard, elle a une nouvelle vision. Dieu lui parle et l'exhorte à dire et à écrire ce qu'elle voit. Donc elle est tout d'abord prise de peur. Elle tombe malade, elle a une résistance, son corps résiste à rendre public ce qu'elle reçoit. Et véritablement, elle va quand même le faire, et elle va d'abord en parler autour d'elle à son confesseur, Volmar, qui va récupérer ses visions, ses écrits, et traduire en latin pour composer les manuscrits qu'on connaît aujourd'hui. Elle va également chercher des appuis autour d'elle. Elle va écrire à Bernard de Clairvaux, qui est son contemporain, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, qui intercédera en sa faveur auprès du pape Eugène III, qui véritablement va découvrir les visions d'Hildegard et va les trouver très bien, qui conviennent tout à fait aux dogmes de l'époque. Donc à partir de là, elle va devenir un véritable phare spirituel pour ses contemporains, et véritablement elle va commencer une correspondance très importante avec les papes, les empereurs, Conrad III, Frédéric Barberousse Ier, la lumière va se diriger vers elle et elle va commencer à parler de ses visions et à professer. Elle va également fonder deux monastères, celui de Rupertsberg et de Eibingen, pour accueillir les moniales qui souhaitent la rejoindre et qui sont toujours de plus en plus nombreuses, qui commencent à entendre parler d'elle et qui veulent rejoindre son monastère. Elle voyagera, elle fera 4 voyages, ce qui est tout à fait, pour l'époque, quasiment impossible. On voyage peu, les routes sont peu sûres, elles sont quasi inexistantes. Voilà, mais donc elle fera ça pour aller professer dans des grandes villes, et on lui donnera la parole, notamment des ordres religieux qui la recevront. Elle participe bien sûr au conflit de son temps, en soutenant l'activité réformatrice des papes. Elle défendra l'institution pontificale contre le pouvoir impérial, c'est-à-dire qu'à l'époque, il va suivre 4 papes qui vont lutter contre Frédéric Barberousse, qui veut prendre le pouvoir. Il y a une guerre qui est engagée, et véritablement, elle se mettra du côté du pape et de l'Église. Et elle prendra également parti contre les cathares, à qui elle reprochera essentiellement de se moquer du corps et de considérer qu'il est tout à fait impérieur, tandis que pour elle, c'est véritablement la porte du ciel. Il faut ajouter ici que sa vie couvre la deuxième et la troisième croisade. Voilà. Elle vivra aussi à la fin de sa vie une ultime épreuve. Elle sera interdite des offices religieux au sein de son monastère et donc des chants, parce qu'elle décidera d'enterrer un jeune homme qui a assassiné quelqu'un, qui a reçu les dernières onctions, enfin qui s'est confessé, a reçu les dernières onctions par un prêtre, par un moine de l'époque, et l'Église lui demandera lui interdira d'enterrer ce corps au sein même de son monastère, mais elle, considérant qu'il a été confessé, insistera, et c'est pour ça qu'elle sera frappée de cet interdit, qui sera très difficile pour Hildegard, et une vraie punition parce que le chant est très important pour elle. On va le voir tout à l'heure. Elle décède le 17 septembre 1178 à l'âge de 81 ans. Donc son œuvre est tout à fait remarquable. Donc tout d'abord, j'ai parlé de la correspondance qu'elle entretient avec les plus grands de ce monde et les plus humbles aussi. On peut lui écrire en tant que moniale pour lui parler de problèmes de santé ou bien lui demander un avis politique. Frédéric Barberousse le fera lui-même, puisque avant que véritablement ce conflit n'éclate avec les papes qui vont se suivre, ils vont se rencontrer. Elle est l'auteur d'une trilogie visionnaire, c'est-à-dire qu'elle reçoit ses visions qui sont mises sous forme de manuscrits, qu'elle interprète. Donc les visions sont toujours suivies d'un commentaire. Et elle en témoigne dans trois livres qui s'intitulent le Sivias, qui signifie « connaît les voies », donc sous-entendu du Seigneur, le livre des mérites de la vie et le livre des œuvres divines. Elle est également l'auteur de deux ouvrages, un de sciences naturelles et l'autre de médecine, enfin à l'époque ce sont deux matières qui sont reliées, qui s'intitulent le Physica, donc le physique, et les causes et les remèdes. Elle est également l'auteur d'un langage secret, dont je vous parlerai tout à l'heure, et d'un alphabet secret aussi, enfin qui ne l'est plus, mais disons inconnu. Elle compose également de la musique, sur laquelle elle met des paroles, elle fait chanter, psalmodier, cette langue inconnue, et elle est l'auteur de la compositrice de environ 77 chants. Alors tout d'abord, pour revenir sur l'expérience d'Hildegarde, pour bien comprendre ce que sont ces visions. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, Hildegarde est une visionnaire et une prophétesse, c'est-à-dire que la prophétie est tout à fait inséparable de la vision. La relation qu'elle établit avec Dieu dans la vision, qui est à deux, va véritablement s'étendre à autrui et devenir une relation déjà trinitaire, elle, Dieu et l'autre qui reçoit. Ces visions proviennent de Dieu lui-même qu'elle appelle dans ses écrits la lumière vivante. Hildegarde voit au sens fort du terme, son champ de perception est élargi au point d'évaluer non seulement les apparences extérieures mais aussi l'essence de toute chose. Et je vais la citer parlant de ces visions. La lumière que je contemple n'est pas liée à l'espace. Elle est beaucoup plus vive qu'une nuée porteuse de soleil. Je ne puis en déceler ni la hauteur, ni la longueur, ni la largeur. On me dit que c'est l'ombre de la lumière de vie. De même que le soleil, la lune et les étoiles se reflètent dans les eaux, les écrits, les discours, les énergies et certaines œuvres des hommes deviennent pour moi lumineuses. Les paroles en cette vision n'ont pas le timbre de la voix humaine, elles sont comme une flamme qui lance des éclairs, comme un nuage qui évolue dans la pureté de l'éther. Ce à quoi elle ajoute, dans cette lumière, je vois de temps à autre, mais pas souvent, une autre lumière qui m'est désignée comme la vraie lumière vivante. Si Hildegarde rencontre Dieu sous la forme d'une éblouissante clarté, elle insiste sur le fait qu'elle est parfaitement consciente lors de ses illuminations. Elle confesse à ce sujet, « Je l'ai reçu en pleine conscience, dans un parfait éveil de mon corps. Je ne me trouvais absolument pas dans un état de léthargie. Il ne s'agissait pas non plus d'un transport de l'esprit. » Et elle dit par ailleurs, « Les visions que j'ai vues, ce n'est ni en songe, ni dans le sommeil, ni en extase, ni par les yeux du corps, ni par les oreilles de l'homme extérieur, ni en des lieux cachés. Mais je les ai perçus étant éveillés, des yeux et des oreilles de l'homme intérieur, en des endroits découverts selon la volonté de Dieu. » D'après la moniale, il n'est pas question de rêve, ni de frénésie, ni de transport douteux, mais bien d'une manifestation claire et transparente qui a lieu dans un état d'éveil des sens. Et pour qu'il n'y ait aucun doute sur la nature divine de ces expériences visuelles et sonores, Dieu s'affirme, ce n'est pas toi l'inventeur de cette vision, aucun autre homme non plus ne l'a imaginé, c'est moi qui ai décidé de tout avant le début du monde. Ce qu'Hildegarde confirme en toute humilité, quant à moi, je suis un pauvre petit vase en argile et je tire tout ce que je dis non de moi mais de la lumière sereine. L'homme est un vase que Dieu a fabriqué pour lui-même et qu'il a pénétré de son inspiration afin d'accomplir par lui ses œuvres. Ainsi, toute la connaissance qu'elle transmet dans son œuvre pluridisciplinaire, issue de ses visions, est-elle inspirée par Dieu. Ayant accès à des régions supérieures de l'âme, elle comprend, sans les avoir étudiées, psaumes et évangiles. Tout lui vient par révélation et non par l'étude. Tout le savoir que j'ai acquis, écrit-elle, c'est au mystère des cieux que je le dois. Je parle désormais par la bouche d'un homme n'enseignant pas les Écritures, ni éduqué par un enseignement terrestre, mais moi qui suis, j'annonce par lui de nouveaux secrets et de nombreux mystères, restés jusque-là cachés dans les livres. Hildegarde accède donc au monde surnaturel par le biais d'une véritable initiation qui prend sa source dans les révélations de ces mystères. Ses proches la disent d'ailleurs « simista » en latin, co-initiée au mystère divin, comme l'étaient les prophètes. Donc, on pourrait penser que l'expérience mystique d'Hildegarde rejoint ici le fameux voyage dans le monde, le fameux voyage de l'âme dans le monde imaginal, qui est le lieu des archétypes divins dont nous avons parlé ce matin. Si l'on se place au plan macrocosmique, il apparaît clairement que le monde imaginal dispose d'un statut médian entre l'univers terrestre et les réalités informelles. Souvent qualifié de monde intermédiaire, il assume une fonction de lien et de passage qui réunit les berges du corps et de l'esprit au moyen de l'âme. Si l'imaginal permet au divin de s'infuser dans l'âme humaine, par quel moyen ouvre-t-il l'être à la voie de la vérité ? Le symbole. Le propre du symbole étant de réunir une forme sensible avec un principe intelligible, de telle sorte que cette forme apparaisse comme le corps même de ce principe. Néanmoins, il ne suffit pas de voir pour saisir le sens. L'image, à la fois voilement et dévoilement, nécessite une interprétation vierge de toute spéculation, purifiée de toute intrusion de l'ego susceptible de la corrompre. Sa structure est indissociable de l'herméneutique qui opère le passage du mystère à son explication, seule approche possédant une consistance et manifestant une vérité. Or, l'on sait combien Hildegarde s'appliqua à l'exégèse des passages de la Bible ou de ses propres visions, qu'on va retrouver dans les visions dont je vais vous parler, hein, notamment des symboles qu'elle aborde. Donc, je vais commencer par, commencer par l'œuvre visionnaire et prophétique, c'est-à-dire le contenu de ces trois ouvrages dont je vous ai donné les titres tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans son œuvre, Hildegarde témoigne d'une vision unifiée de l'homme et de l'univers, reposant sur l'analogie profonde existant entre leur nature terrestre et céleste. Selon elle, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'homme, donc ainsi l'homme est-il un miroir dans lequel se reflète l'univers et par là toute la création. Fort de ce legs, il est responsable de lui-même tout autant que de la création qui est liée à lui. En retour, celle-ci a le pouvoir d'influencer sur lui, en mal ou en bien, de le déstabiliser ou de le conforter. C'est pourquoi il doit choisir entre vivre en dehors de Dieu, en se soumettant aux passions et aux vicissitudes de l'esprit, ou bien aspirer au salut. Et on verra que chez Hildegarde, faire son salut, ce n'est pas éviter de pécher pour accéder au paradis qui serait dans la vie après la mort, mais véritablement un travail présent pour transformer le monde et le ressourcer, à sa mesure, bien évidemment. Alors je vais vous mettre une autre image qui va être plus parlante. C'est une des enluminures de ces manuscrits. Donc souvent on en attribue l'origine à Hildegarde, mais bon, je tiens à dire à tout le monde qui aurait cette illusion que non, Hildegarde n'est absolument pas l'auteur de ces enluminures. Elle a fait beaucoup de choses, mais elle n'avait pas ce don-là. En tout cas, elle ne se n'est dit nulle part, donc on l'entend parfois, mais ce n'est pas du tout avéré. Quelle est donc sa vision de Dieu ? Dans son œuvre, Dieu dépasse le cadre étroit d'une divinité à l'image de l'homme, tantôt généreuse, tantôt capricieuse. En tant qu'absolu, il transcende les contraires et coère le tout. À l'origine de l'univers et de l'homme, il diffuse son ordre, sa rigueur et son infinité. Il imprègne et pénètre toute l'architecture universelle. Aussi se décline-t-il en une énergie dynamique qui régit le macrocosme et le microcosme du cosmos à l'homme. Dans le livre des œuvres divines, elle s'incarne sous la figure merveilleuse aux multiples têtes, flanquée de quatre ailes écarlates. Et je vais vous citer le passage de son manuscrit qui en parle, qui vous révèle finalement la forme que prend dans sa vision Dieu et véritablement l'énergie ignée qui l'anime, qui en ressort, qui véritablement donne vie à tout ce qu'il y a sur terre. Donc elle imagine une figure. Elle avait apparence humaine. La beauté, la clarté de son visage était telle que regarder le soleil eût été plus facile que regarder ce visage. un large cercle d'or ceignait la tête. Dans ce cercle, un deuxième visage, celui d'un vieillard, dominait le premier. Son menton, sa barbe, frôlait le sommet du crâne. De chaque côté du cou de la première figure se détachait une aile. Ses ailes s'élevaient et se rejoignaient au-dessus du cercle d'or. La partie extrême de la courbure de l'aile droite portait une tête d'aigle. De ses yeux de feu rayonnait comme en un miroir la splendeur angélique. La partie correspondante de l'aile gauche portait une tête d'homme qui brillait comme étincelles les étoiles. Les deux visages étaient tournés en direction de l'est. De chaque épaule de la figure, une aile descendait jusqu'au genou. Un vêtement qui avait l'éclat du soleil la recouvrait. Dans les mains, elle portait un agneau qui brillait comme une journée débordante de lumière. Du pied, elle terrassait un monstre à l'aspect effroyable, vireux et noir, et un serpent. Le serpent serrait dans sa mâchoire l'oreille droite du monstre. Son corps s'enroulait autour de la tête du monstre et sa queue allait jusqu'à ses pieds du côté gauche de la figure. La figure parla en ces termes « C'est moi, l'énergie suprême, l'énergie ignée, c'est moi qui ai enflammé chaque étincelle de vie, rien de mortel en moi ne fuse, de toute réalité je décide. Mes ailes supérieures enrobent le cercle terrestre, dans la sagesse je suis l'ordonnatrice universelle. » Voilà, je vous ai lu cet extrait pour que quand même vous ayez une idée du style d'Hildegarde, en tout cas du moine qui a récupéré et traduit en latin cette vision, et voilà, qui était écrit au Moyen-Âge. Donc pour Hildegarde, la création est faite de matière et d'esprit, il n'y a pas de séparation. La perfection de sa structure et de ses cycles cosmiques, l'incroyable intelligence avec laquelle elle se renouvelle sans fin, révèle cette force unique et primordiale, issue de Dieu, qui sous-tend toutes les formes d'existence sur Terre. Ce lien mystérieux unit toutes les créatures entre elles, cette unité régit toute la création, traversée de viriditas. Alors la viriditas chez Hildegarde, ça se traduit par virilité, et c'est tout ce qui est vert. Donc tout ce qui est vert sur la planète, tout ce qui est vigoureux, tout ce qui porte cette énergie, et fait partie de la virilité pour Hildegarde, et témoigne donc de ce jaillissement de cette énergie. Donc Hildegarde a également une vision originale de la structure de l'univers et de l'homme, qu'on retrouve ici. Et dans le livre des lignes, il faut imaginer que cet univers est s'architecture autour de deux structures. Tout d'abord, l'univers est semblable à une roue dans sa vision, qui contient six cercles concentriques, qui sont en fait des stades, hein, comme des différents plans énergétiques, on va dire ça, puisque Hildegarde utilise ce terme-là, et un homme qui est en son centre, que vous retrouvez sur la figure, aux gigantesques proportions, dont les bras et les jambes en croix figurent les rayons, sa tête, ses pieds et ses mains effleurent le bord du cinquième cercle. Alors, juste une petite parenthèse, ça fait un peu écho au croquis de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, qu'il fera donc au 16e siècle, au 15e siècle, excusez-moi. Dans les quatre directions cardinales apparaissent quatre têtes, celles d'un léopard, d'un loup, d'un lion, d'un ours, d'où émanent des souffles vitaux, eux-mêmes porteurs d'autres souffles issus d'un crabe, d'un cerf, d'un serpent et d'un agneau qui convergent vers la roue et la figure humaine en son centre. Les planètes réparties dans les différents cercles font également partie de cette structure. Donc vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure que tout est relié, c'est véritablement ça. Ce qui agit d'un côté agit forcément sur l'homme, et l'homme véritablement a le pouvoir aussi d'agir sur l'univers par répercussion, si vous voulez, hein, par micro-répercussion, si vous préférez. Dans cette vision, Dieu porte l'univers dans son cœur, la roue vivante du monde associée à son organe et l'œuvre de son amour. Semblable à lui, elle forme un tout et enferme tout. Mue par l'intelligence qui ordonne l'univers, elle tourne sur elle-même, parce que bien évidemment, cette roue est dynamique, elle n'est pas figée, illustrant le processus du monde en mouvement et en devenir. Son symbole réunit les différentes caractéristiques, l'unité, l'équilibre et la cohérence qui définissent l'univers chez Hildegarde de Bingen. Dans son schéma, toutes les énergies cosmiques et divines, feu, air, eau, multiples et variés, même antagonistes, agissent de concert. Elles se compensent et se modèrent afin que tout excès soit évité. Si ces énergies permettent à la création de s'édifier et de s'ordonner, elles animent également l'homme et créent en lui la tension nécessaire pour qu'il aspire à un équilibre et s'élève vers son créateur. Et qui définit véritablement le destin de l'homme pour Hildegarde. Donc, pour Hildegarde, l'homme n'est pas le résultat d'une quelconque évolution, encore moins le produit d'un hasard, il est Opus Dei. Il est créé à l'image de Dieu et conforme à la constitution du firmament, bien sûr avec ses propres proportions, on est bien d'accord là-dessus. Il est doté d'un corps et d'une âme, qui de par leur naissance et leur croissance sont inséparables de l'univers dans lequel, duquel ils proviennent. Ainsi, l'homme a été conçu pour aimer et servir son créateur, et dans cette entreprise, son corps est son soutien, et son âme, son guide. Si l'homme est petit dans l'ordre de la création, Hildegarde écrit, il est grand de par l'énergie de l'âme. Privilégié dans la création, c'est-à-dire ici que l'homme est la créature préférée de Dieu, selon elle, il ne doit pas chercher à échapper à son destin le plus noble, parachever l'œuvre de son créateur, en coopérant avec la nature. Autrement dit, il est invité à faire le salut de son âme et à participer ainsi à sa mesure à celui de l'humanité. Alors bien sûr, Hildegarde rappelle qu'il reste aussi libre, que voilà, ça c'est le fruit de l'amour de Dieu, mais l'homme est libre, il n'est pas du tout conditionné, et donc il est libre de désobéir. Hein. On va voir après plus tard avec quelles conséquences, notamment par exemple sur son corps à travers la maladie. J'aimerais vous parler maintenant des prophéties d'Hildegarde. Rappelons ici que le XIIe siècle dans lequel a vécu Hildegarde est une époque heurtée, où de multiples mutations sociales, religieuses, politiques ne cessent d'affaiblir les institutions ecclésiales. Il y a vraiment des doutes autour de tout ça, voilà, la foi recule. Donc, soucieuse, la littérature visionnaire et prophétique reprend le discours eschatologique de la fin du monde, son cortège d'horreur, les guerres, l'infidélité à Dieu, l'injustice, l'antéchrist, le jugement dernier, etc., jusqu'au sort de l'homme après la mort et la transformation ultime du monde. Hildegarde a une conscience accrue du désordre qui règne et bien sûr de la crise qui sévit. Dans son œuvre, l'histoire épouse une savante et complexe composition. Dans la dixième vision du livre des œuvres divines, l'histoire se divise en quatre parties dans lesquelles elle détaille le déroulement de l'histoire. Et elle s'attache particulièrement au dernier de ces âges, qu'elle découpe à son tour en cinq périodes. Donc je vous en donne les noms, donc celle du chien de feu, du lion roux, du cheval pâle, du porc noir et du loup gris, qui marquent successivement l'avènement de la fin du monde, la montée du mal et du désordre. Alors, entre parenthèses, on pourrait avancer qu'Hildegarde se situe à la fin des temps du chien de feu, commencé vers 1100-1101, ce qui voudrait dire que nous, on est à peu près dans l'époque du loup gris. Enfin, voilà, voilà, c'est une petite parenthèse donc, qui donne en général lieu à de grandes discussions. Donc, mépris de la justice, guerre, famine, corruption, trahison des guides de l'humanité, schisme religieux et rejet de la loi divine, scandent ainsi cette dégradation du principe divin. Le temps du loup se caractérisant par le règne de l'antéchrist, les pillages généralisés, le triomphe de la séduction diabolique. Nous n'avons pas beaucoup de chance. Dans la description d'Hildegarde, s'affirme comme l'antithèse du Christ. Son œuvre maléfique s'oppose littéralement à celle de ce dernier. Sous son règne, les valeurs sont inversées. Maître du monde invisible, il commande aux éléments, provoque de gigantesques tempêtes, tandis que le son de sa voix ébranle le ciel et la terre. Bien sûr, je cite Hildegarde. Les montagnes sont arasées, les fleuves asséchés. Il exerce un pouvoir tyrannique sur les vivants, ceux qui le nient sont tués. Les plus craintifs et les plus crédules accourent vers lui pour l'adorer comme un dieu et vénérer ses écrits. En outre, ses desseins sont clairs, détruire tout ce que Dieu a établi, enseigner une doctrine contraire à l'évangile et répandre une morale pervertie. Néanmoins, son destin est également scellé. Une fois le nombre d'or des martyrs atteint, l'armée des fidèles sera réunie pour le combattre. L'orgueil le perdra, comme elle a perdu Lucifer aux origines du monde. Ainsi, aussi, l'Antéchrist est-il à la fois une figure mythique, le héros des forces du mal et le principe destructeur en puissance, on va dire désacralisant, profanateur, que finalement nous allons aussi retrouver dans l'homme qui désobéit à Dieu. Donc chez Hildegarde, il faut savoir que la fin des temps correspond à la fin d'un monde, j'insiste bien, la fin d'un monde et non pas la fin du monde, et à son renouvellement. Pourquoi la fin d'un monde? Tout simplement parce que un monde doit céder par rapport à l'autre. Voilà. Donc ce n'est pas la fin totale et définitive, mais simplement le renouvellement de quelque chose. Et je vais vous dire de quoi. Parallèlement à l'avènement de l'Antéchrist, les événements se précipitent. Les hommes barbares, sous-entendu les incroyants, si vous voulez, se déchaînent et les guerres éclatent. La nature se déchire à l'image des forces primordiales qui s'affrontent. Au final, la destruction est totale. La visionnaire entend alors une voix qui couvre le vacarme des éléments, appelant les fils des hommes qui gisent sous terre. Elle assiste à la résurrection des morts et Jésus-Christ procède au jugement dernier. Le retour à l'ordre est proche. Le ciel accueille les élus, devenus plus lumineux que le soleil, et l'enfer engloutit les réprouvés, hurlant à la vue des tortures éternelles qui les guettent. Les éléments s'apaisent, le tumulte s'évanouit dans une immense tranquillité. Apaisée, la terre est alors submergée de virilité et de fécondité. Les hommes se concentrent sur la justice qui a tant fait défaut au monde durant ces temps agités. Les souverains et le peuple entier mettent les commandements de Dieu en application. En outre, tous les mystères de Dieu sont révélés à l'homme qui a atteint la maturité et a fait son salut. Donc à la fin, dans ce monde renouvelé, tous les mystères sont à jour, ils sont connus de l'homme. Le monde a subi une transformation durable, son ressourcement a pris forme. La roue cosmique du monde, décrit plus haut, dont l'homme occupait le centre, est dès lors actionnée par la figure d'amour. L'homme transformé, révélé à lui-même grâce à son salut, a fusionné avec elle. L'amour, qui est l'énergie créatrice, s'émue en force consciente, permettant d'assurer l'unité et d'éviter la fragmentation de l'univers, générateur de vie. Donc là aussi, tout s'imbrique. Donc il faut imaginer, ça c'est une des premières visions dans le livre des œuvres divines, tout à coup, en son centre, une figure d'amour qui actionne le monde. Ça c'est véritablement ce qui caractérise ce monde régénéré pour Hildegard. L'homme n'a pas disparu, il a fusionné avec cette figure d'amour. Si Hildegard dévoile aux hommes les événements ultimes, cela revient-il à dire que la prophétie est exclusivement annonciatrice de malheurs à venir? Là réside toute l'originalité de la visionnaire, car pour elle, la prophétie est un chemin. En reliant le passé à l'avenir, elle actualise la parole de Dieu. Elle manifeste et révèle les mystères éternels qui mettent l'homme sur le chemin du salut. En outre, la prophétie concerne autant la fin d'un cycle que l'avènement du nouveau qui doit le remplacer. L'Apocalypse ne se caractérise donc pas tant par la disparition du genre humain ou de la nature dans une catastrophe cosmique, que par le bouleversement et le changement des valeurs, d'où rejaillira le principe divin au cœur de toute chose et à la base de l'ordre du monde. Le temps linéaire, historique, est aussi cyclique, mythique. Le déséquilibre doit le céder à l'équilibre. Les tribulations actuelles et futures sont des étapes nécessaires et transitoires que l'homme doit franchir en évitant l'injustice et la démesure. Hildegard prévient ses contemporains de façon à maintenir leur ardeur et renforcer leur courage sur le dur chemin du salut. Donc je voudrais vous parler maintenant de l'œuvre musicale qui fait partie aussi de cette œuvre visionnaire, puisque Hildegard dit bien que quand elle reçoit ses visions, elles sont aussi sonores, et quand elle compose ses chants qui lui viennent de Dieu, véritablement elle les a entendus avant même de les composer. Donc il faut savoir aussi que pour Hildegard, l'âme est une symphonie. Donc la musique et la musique est la réminiscence de la science ou connaissance divine que l'homme a perdu après sa chute du paradis. Aussi a-t-elle le pouvoir de reconduire son âme vers Dieu. En ce sens, le chant constitue une voie d'accès direct au mystère divin, permettant au corps et à l'âme réconciliés de s'unir en Dieu. Portée par la voix ou toutes sortes d'instruments, la musique, ou, je cite Hildegard, l'harmonie symphonique de la révélation divine, canalise et transforme les émotions humaines pouvant constituer des obstacles ici-bas. Elle adoucit les cœurs et modifie les humeurs. Elle appelle l'Esprit Saint, dispensateur de la grâce divine. La musique peut donc être, en ce sens, le support d'une expérience spirituelle d'une grande profondeur et aider l'âme sur le chemin du salut. C'est véritablement l'objectif de la musique pour Hildegard. Alors, on sait que dans ces chants, on a retrouvé des paroles, souvent qu'on appelle des louanges, qui étaient écrites en latin, qui sont de véritables poèmes absolument magnifiques, mais aussi des extraits de cette langue inconnue dont je vous parlais tout à l'heure et qu'elle a créée elle-même. Donc je vais vous en parler un petit peu et puis je vais tenter une interprétation, hein, s'il s'agit juste de notre regard, mais bon, en tout cas, qui serait cohérent par rapport à toute son œuvre visionnaire. Donc la langue inconnue, la lingua ignota, se présente comme une liste de 1011 mots qui sont construits à partir du latin, du grec et de l'allemand. Ils sont écrits dans notre alphabet et traduits en latin, la langue de l'Église au Moyen-Âge, et le moyen haut allemand, qui était la langue parlée à l'époque dans l'Empire germanique. Elle est parfois associée à un alphabet de 23 caractères, dont chacun serait le fruit d'une transformation graphique des lettres latines. Cette langue est composée de noms et d'adjectifs, mais elle ignore totalement les verbes. Je peux vous citer quelques mots en exemple, donc aigons, qui signifie Dieu, jure, qui signifie homme, vanix, femme, vriviol, je tente une prononciation, vierge, et oil, tête. Voilà, pour vous donner simplement déjà une consonance, une résonance. Alors on y recense des mots qui se rapportent aux outils de jardinage, aux ustensiles domestiques, des noms d'arbres, de plantes, d'oiseaux, l'anatomie du genre humain, des maladies, autres, enfin, on a un petit peu tout. Et bien sûr, les interprétations sur la lingua ignota sont nombreuses et diffèrent, comme vous pouvez l'imaginer. Donc certains auteurs l'identifient à une langue secrète qui était destinée aux communications internes du monastère. Je dirais, ils avaient vraiment que ça à faire, ou encore un divertissement intellectuel, là aussi, vraiment beaucoup de temps pour le divertissement, surtout quand on voit tout ce qu'a fait des gardes. Alors je proposerai celle-ci qui me paraît, bon, en tout cas, que je rejoins personnellement, et qui a été bien évidemment émise par Sylvain Guggenheim, qui a travaillé sur cette lingua ignota et sur Hildegarde, qu'il associe au langage utilisé par les vierges du paradis, dont Hildegarde décrit le chant béni dans le livre des mérites de la vie. C'est vrai que si on lit cet ouvrage, Hildegarde parle donc de ces vierges du paradis, hein, qui étaient aussi reliées au monial, qui étaient dans son monastère, et elle ne cesse de dire que véritablement elle parle entre elles un langage qui leur appartient, hein, qui serait le langage des anges. Donc cette dernière hypothèse permet d'avancer que Hildegarde aurait peut-être essayé de restituer la langue originelle parlée par Adam avant la chute, lui permettant de converser avec les anges. Et bon, c'est pas tout à fait tiré, on va dire, par les cheveux, cela rejoindrait le sens qu'elle donne à la musique, et ce serait aussi la raison pour laquelle elle sait chanter ce langage. Voilà. Je n'ai pas d'extrait, hein. Il existe les musiques d'Hildegarde, mais on n'a pas les musiques avec les extraits de cette langue, mais quand on entend les chants d'Hildegarde, on se rend bien compte que ça devait agir comme des mantras. Vous voyez, quelque chose qu'on répétait, des prières comme ça qu'on répétait, et dont la sonorité devait, comme dans beaucoup d'autres traditions, nous faire atteindre des plans de conscience supérieurs. Alors je terminerai avec l'œuvre médicale ou l'art de soigner et de guérir d'Hildegarde. Donc Hildegarde n'a pas reçu de formation scientifique et malgré tout elle entreprend la rédaction de deux ouvrages sur les sciences naturelles et la médecine qui étaient probablement un seul et même ouvrage à l'époque et certainement qui ont été divisés dans le temps, en tout cas c'est ce que les spécialistes pensent, d'où le nom, donc le physique d'un côté, le physica, et les causes et remèdes de l'autre côté. On trouve aussi pour le physica la traduction, le livre des subtilités des créatures divines. Voilà, ne soyez pas étonnés, c'est la même chose. Donc dans chacun d'eux, la nature qui englobe l'être humain, l'animal, le végétal et le minéral est observée pour elle-même. Hildegarde cherche à en découvrir les secrets pour les livrer à l'homme. Les maladies et les remèdes sont ainsi passés en revue. Or l'abbesse n'est pas tant mue par la curiosité scientifique et la volonté de rassembler les différents éléments naturels que par le désir de replacer l'homme à sa juste place dans l'ordre de l'univers. En cela, l'œuvre naturaliste s'accorde à l'œuvre visionnaire, qui n'a d'autre but que d'aider celui-ci à vivre en harmonie avec le reste de la création, en accord avec Dieu. La signification et l'interprétation de ces traités restent en effet obscures si l'on ne prend pas en compte les deux niveaux de lecture subtilement imbriqués l'un dans l'autre, qui unissent, là encore, les pôles terrestres et célestes, et en renvoyant le corps à son rapport avec l'âme, et ceci à leur rapport avec le cosmos. Telle est la clé de la guérison de l'homme, qui consiste avant tout à se réconcilier avec lui-même, le monde et Dieu. Hein, donc là, vous avez une clé pour comprendre ce qu'est la guérison pour Hildegarde. c'est ce qui va véritablement motiver les remèdes dont je vais vous parler brièvement. Donc, Hildegarde met l'homme face à sa dimension divine. Quand il l'oublie ou la refuse, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était tout à fait libre de le faire, il devient un être vulnérable, malade et soumis à la mort. Dans sa chute, il est sujet aux pires maux, encombré d'impureté et d'humeur néfaste, le corps et l'âme sont perturbés. La mélancolie, par exemple, naît de la bile noire qui induit la colère, la négativité et la violence. Symbole de la maladie, elle s'oppose à la virilité, la force naturelle de la vie qui mène l'homme vers la santé. La maladie apparaît là non pas comme un processus pathogénique, mais comme une déficience, une absence, un manque. Ainsi, retrouver, maintenir et protéger la santé est un travail quotidien et continu, spirituel, qui implique que le corps et l'âme s'accordent à la loi divine et au dessein du Créateur. La nature a en effet besoin de l'action créatrice de l'homme pour la mettre en ordre et en mouvement. L'homme est libre de répondre à ce besoin ou pas, en participant à son salut et par là même à sa santé. En ce sens, la visionnaire envisage la santé à la fois sur le plan du corps et sur celui de l'âme. L'un et l'autre sont interdépendants, jamais séparés pour Hildegarde. C'est pourquoi la santé rejoint la sainteté, qui n'est rien d'autre que la santé de l'âme. Ça, c'est une des définitions de la sainteté pour Hildegarde. Si l'âme confère l'énergie alimentant le corps et assure sa restauration, il est évident que la maladie du corps peut tirer son origine de l'âme, qui nourrit et abreuve l'homme intérieurement, je cite Hildegarde, l'aide à développer et à affermir ses différentes natures corporelles. Inversement, la maladie de l'âme peut procéder du mauvais état du corps. Aussi propose-t-elle des remèdes matériels et spirituels dont l'efficacité repose entre les mains de Dieu, qui est le grand médecin de toutes les maladies, le grand guérisseur. Sans lui, rien ne peut se faire. Et sans non plus l'esprit de miséricorde. Voilà. Sans cet esprit-là, il n'y a pas de guérison possible pour Hildegarde. Dans le livre des subtilités des créatures divines, la nature est présentée comme une réserve inépuisable d'éléments où il faut discerner les subtilités. Ce terme vient d'Hildegarde. Hildegarde s'applique ainsi à dégager l'essence cachée et à faire apprécier les vertus nutritives, préventives et curatives de 513 plantes, fruits, fleurs, pierres et métaux. Là encore, elle distingue le tempérament de chaque plante, dont la qualité est chaude ou froide, sèche ou humide. On tient bien ces caractéristiques déjà de l'Antiquité. Les remèdes sont donnés sous forme de décoction, enveloppement, poudre, lavement, fumigation, pour panser les blessures corporelles et affectives de l'homme. Alors je vais vous en donner 2-3. Les aliments, bien évidemment, sont décrits comme une source de santé et de vitalité pour le corps, mais aussi comme une source de jouvence pour l'âme. Dans la longue liste établie par l'abbesse, il faut retenir entre autres l'épeautre, qui est un excellent grain. Je crois que tout le monde en a entendu parler. En général, on connaît beaucoup Hildegarde par les aliments et les tisanes auxquelles elle a pensé. L'abbesse insiste par ailleurs sur tout ce qui réjouit l'homme, apte à le maintenir de bonne humeur et donc en bonne santé. Chez Hildegarde, une des conditions de la santé, c'est la joie. Voilà. S'il n'y a pas de joie, c'est pas véritablement la santé. Les fleurs, leur beauté et leur parfum peuvent ainsi contribuer à son bien-être et à son épanouissement. Je ne résiste pas à vous lire un tout petit passage, très très court. Le parfum de la première poussée des lys et celui de leurs fleurs, écrit-elle, réjouissent le cœur de l'homme et suscitent en lui de justes pensées. De même, la lavande contribue à donner une connaissance pure et un esprit pur. Et elle dit aussi que la rose soigne la colère, enfin donc c'est intéressant. Donc vous voyez toujours ce rapport entre l'âme et le corps. Les pierres précieuses et semi-précieuses possèdent leurs propres vertus curatives, matérialisées par le Créateur pour sa joie et sa santé. Elles apparaissent le quatrième jour de la création, après la naissance des arbres et des plantes. C'est pour dire le statut important qu'elles ont dans l'œuvre de la création, et de Dieu dans la création. Elles portent ainsi en elles le reflet de la divinité et sont dépositaires de son pouvoir de protection et de guérison. Elles peuvent également aider l'homme à agir plus justement envers Dieu et son prochain. Voilà. Donc je pourrais bien évidemment continuer pendant des heures et des heures sur ce sujet qui me passionne, mais je vous en ai déjà donné quelques aspects pour que nous puissions faire le pont avec ce monde imaginal. Les visions, les prophéties qu'elle a partagées, et toute la vision du monde qu'elle porte et qu'elle a voulu transmettre, qui nous est parvenue 800 à 900 ans plus tard. Je vous remercie pour votre écoute.